VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 29 mars 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a levé hier soir la suspension de l'installation des sénateurs élus le 15 mars dernier.
La force anti-djihadiste G5 Sahel a eu son premier contact avec des terroristes, a indiqué hier son commandant, le général mauritanien Anena Ould Sidi.
Aux Comores, 3 morts dans une fusillade dans la capitale, alors que le pays est en pleine crise politique.
Au moins 139 cas de choléra ont été enregistrés au Mozambique, frappés mi-mars par le cyclone Idai.
Ici à Washington, le président Donald Trump et ses alliés républicains demandent la démission du démocrate qui dirige la commission du renseignement de la Chambre des représentants.
Et les États-Unis qualifient de ridicule la sanction d'inéligibilité prise par les autorités vénézuéliennes contre le président autoproclamé Juan Guaido.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, le président Félix Tshisekedi a levé jeudi soir la suspension de l'installation des sénateurs élus le 15 mars dernier après réception d'un rapport préliminaire du procureur général de la République près de la Cour de cassation sur les allégations de corruption intense ayant émaillé les sénatoriales, nous dit de Kinshasa Thierry Kambundi de notre station partenaire Top Congo FM.
Le contenu du rapport du procureur général près la Cour de cassation n'a pas été dévoilé. Le communiqué de la présidence de la République réaffirme simplement la détermination de Félix Tshisekedi à combattre la corruption et considère que plus rien ne s'oppose à l'installation du Sénat. Avant la levée de cette mesure, le président de la République a eu une réunion de concertation avec les procureurs généraux près les cours d'appel à travers toute la République sur les allégations de corruption relevées autour de l'élection des sénateurs. Il a, selon le communiqué lu à la télévision nationale, félicité les magistrats pour le travail abattu en même temps qu'il les encourage à les faire aboutir. Pour rappel, le 18 mars dernier, Félix Tshisekedi avait, à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle, décidé de suspendre l'installation des sénateurs élus et de reporter l'élection des gouverneurs. Des décisions prises notamment après la débâcle de son parti au sénatorial et une écrasante victoire du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Malgré une vingtaine de députés provinciaux dans le pays, en effet, l'UDPS Tshisekedi n'avait remporté qu'un seul siège au Sénat sur les 100 à pourvoir. Un score qui avait provoqué un tollé, poussant les militants de ce parti à manifester dans les rues, causant la mort d'un policier et plusieurs dégâts matériels. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé aujourd'hui à voter une résolution prolongeant le mandat des casques bleus dans ce pays, la MONUSCO, jusqu'au 20 décembre 2019 avec des effectifs inchangés. Rédigé par la France, le texte souligne aussi que le Conseil de sécurité a l'intention de revoir ce mandat sur la base d'une révision stratégique commandé au secrétaire général Antonio Guterres et qui est attendu au plus tard le 20 octobre 2019.
Le général mauritanien Anena Ould Sidi, commandant du G5 Sahel, a déclaré que la force anti-djihadiste, qui a mené 5 opérations depuis le début de l'année, a eu son premier contact avec des terroristes qui, je cite, « ont été surpris ». Il parlait à des confrères à l'issue d'une réunion ministérielle à huis clos organisée par la France à l'ONU avec les membres du Conseil de sécurité. Les 5 pays ayant créé la force G5 Sahel, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad étaient présents.
Toujours pas de réseaux sociaux au Tchad où Facebook, Twitter ou encore WhatsApp sont coupés depuis un an pour des raisons de sécurité selon les autorités. Une situation dénoncée jeudi par plusieurs associations qui parlent de censure, John Linden.
Cela fait un an, jour pour jour, que les réseaux sociaux sont bloqués au Tchad. Une situation déplorée lundi par Julie Ohono, présidente de l'association Internet sans frontières. Celle-ci réclame, avec plusieurs autres associations et avocats tchadiens, la levée de cette restriction. Toutes ces associations exhortent le gouvernement tchadien à mettre fin à une mesure de censure qui, disent-elles, violent le droit à la libre expression et entravent les opportunités pour la jeunesse tchadienne. Fin mars 2018, les principaux réseaux sociaux du pays étaient devenus inaccessibles au moment où un mouvement de contestation s'élevait contre un changement de constitution visant à renforcer les pouvoirs du président du Tchad. Un pays dirigé depuis 1990 par Idriss Déby Itno et où le pourcentage d'accès à Internet n'excède pas 5%. Fin août, un collectif d'avocats avait porté plainte contre les deux principales compagnies de téléphonie mobile du pays, Airtel et Tigo, qu'ils poursuivent pour avoir bloqué l'accès aux réseaux sociaux. Mais hier, la cour d'appel de N'Djamena a confirmé le rejet de cette plainte. L'accès aux réseaux reste toutefois possible à travers les réseaux privés virtuels VPN. Mais leur coût est prohibitif, assure Julie Ono, dont l'association a récolté des fonds pour permettre à certains journalistes et défenseurs des droits de l'homme d'y avoir accès.
Libye, Médecins sans frontières, a dénoncé les conditions de détention extrêmes et des taux alarmants de malnutrition parmi les réfugiés et migrants dans un centre de détention de Tripoli. Éric Manirakidza.
MSF affirmait que les détenus ne reçoivent qu'un repas tous les deux ou trois jours et que les nouveaux arrivants peuvent attendre jusqu'à quatre jours avant de recevoir de la nourriture. L'ONG indique que près du quart des personnes incarcérées dans le centre de Saba souffrent de malnutrition. Un tiers d'enfants et d'adolescents parmi les détenus ont 50% plus de risque de souffrir de malnutrition grave. La situation est extrêmement préoccupante et la nourriture est systématiquement identifiée comme la principale cause d'anxiété dans ce centre, a affirmé Keith Keus, conseiller santé de MSF pour la Libye. L'ONG exhorte les autorités libyennes et la communauté internationale à agir en urgence pour mettre fin aux conditions inhumaines et dangereuses dans les centres de détention libyens.
La capitale des Comores a été secouée hier par une fusillade entre les forces de l'ordre et un groupe d'hommes armés qui, dit-on, venait de faire évader de la prison de Moroni le commandant Faisal Abdusalam, un officier condamné pour tentative de coup d'État contre le régime. Cette fusillade, en pleine crise politique consécutive à la réélection contestée du président Azali Assoumani, a eu lieu juste après l'arrestation d'un chef de l'opposition, le colonel Soylihi Mohamed.
Au moins 139 cas de choléra ont été enregistrés au Mozambique, frappés mi-mars par le cyclone Idai, qui a provoqué des inondations catastrophiques, selon un nouveau bilan fourni jeudi par le directeur national de la santé. Une campagne de vaccination contre le choléra doit débuter la semaine prochaine. Près d'un million de doses sont attendues au Mozambique. Pour sa part, le président Philippe Nyusi a annoncé jeudi la fin des opérations de secours, précisant que le bilan des intempéries était désormais de 468 morts.
Un an de répit pour des centaines de ressortissants libériens aux États-Unis, le président Donald Trump vient de proroger une mesure leur permettant de continuer à vivre et à travailler dans le pays. Ils sont quelque 4000 à bénéficier des deferred de enforced departure ou renvoi à exécution différé, une mesure humanitaire leur permettant de résider temporairement aux États-Unis après avoir fui la guerre et les catastrophes comme Ebola dans leur pays. L'année dernière, le président Trump leur avait donné jusqu'au 31 mars 2019 pour organiser leur retour au Libéria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, vif échange entre parlementaires démocrates et républicains hier à la commission du renseignement de la Chambre des représentants. Son président démocrate, Adam Schiff, a défendu énergiquement la poursuite de son enquête sur les liens présumés du président Donald Trump avec la Russie. Face à M. Trump et à d'autres républicains qui lui demandent de démissionner de la présidence de la commission, M. Schiff continue de dire que les actions de M. Trump avant et après son élection à la présidence des États-Unis prouve sa culpabilité, bien que le ministre de la Justice, William Barr, résumant le rapport du procureur spécial Robert Mueller, ait conclu à l'absence de collusion entre la campagne électorale de Donald Trump et Moscou.
Au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaido, également chef de file de l'opposition, a été révoqué hier de son poste de président du Parlement et déclaré inéligible durant 15 ans pour corruption présumée, ont annoncé les autorités. Les États-Unis ont qualifié jeudi de ridicule la sanction contre Juan Guaido. Ça, c'est fort, c'est ridicule, a déclaré le porte-parole du département d'État, Robert Paladino.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement malien vient de signer le contrat de rachat d'électricité de la centrale solaire de Sikasso. D'une capacité de 50 MW, elle coûtera environ 50 millions de dollars et a déjà bénéficié d'un appui financier de l'Association internationale du développement. L'agence Ecofin écrit qu'elle sera construite dans le cadre d'un BOOT, selon lequel le développeur PowerPro développera, financera et construira la centrale qu'elle possédera et exploitera avant de la transférer aux autorités nationales. Le secteur des assurances en RDC, qui était sous le monopole d'une entreprise étatique en cessation de paiement, a été libéralisé hier avec l'octroi de licences à 6 sociétés privées. Activa Assurance RDC, la Société financière d'assurance Congo, Allied Insurance Brokers, Grâce Savoie RDC et enfin Rawer SA et Royal Life SA, qui appartiennent à une famille indienne installée depuis plusieurs décennies en RDC. Avec ces permis, la libéralisation des assurances dans le pays est effective après plus de 50 ans de monopole étatique. Pour finir, le terminal pétrolier gabonais, exploité par Valco Energy avec 14 000 barils de pétrole par jour, a repris sa production hier après 2 jours de fermeture à cause d'une grève sur le congé annuel des employés. Le syndicat des travailleurs du secteur pétrolier déclare que les négociations avec Valco commenceront la semaine prochaine avec l'aide du ministre du pétrole. Mais la lutte se poursuivrait si ses exigences n'étaient pas satisfaites.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Patrice Carteron veut sa revanche contre l'Espérance.
Oui, le Français aujourd'hui, sur le banc des Marocains du Raja de Casablanca, retrouve l'Espérance de Tunis ce soir à 16h temps universel pour la Super Coupe de la CAF. Les Tunisiens l'avaient battu en finale de la Ligue des Champions alors qu'il était à la tête d'Al-Ahly. Fin novembre, Carteron butait sur l'Espérance sportive de Tunis au terme d'une remontée incroyable des Tunisiens battus à l'aller 3-1, mais vainqueur au retour 3-0. 4 mois plus tard, le voilà à 90 minutes de venger cet affront à Doha au Qatar. Donc, Raja et Espérance comptent une victoire chacun dans ce match qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Coupe CAF. Les deux entraîneurs étaient en conférence de presse hier. Écoutons le coach des Rajaouis, Patrice Carteron.
C'est un rendez-vous merveilleux que de venir ici à Doha, au Qatar, dans le pays qui organise la prochaine Coupe du Monde, champion d'Asie depuis quelques semaines, et de pouvoir jouer ici cette Super Coupe d'Afrique. Je pense que pour le football africain, c'est un rendez-vous exceptionnel. La retransmission télévisée va être assez exceptionnelle, donc c'est vraiment la meilleure des publicités pour un football qui est en plein essor. On est très heureux de participer, bien sûr, à ce rendez-vous historique, puisqu'il me semble que c'est la première Super Coupe qui a lieu en dehors du continent. Donc, on a rendez-vous avec l'histoire et c'est un moment magique que de participer à cette fête.
Patrice Carteron, entraîneur du Raja de Casablanca, au micro d'Amin Birouk, sur place à Doha.
Manchester United confirme son entraîneur.
Oui, Ole Gunnar Solskjaer, qui avait pris l'intérim sur le banc de Manchester United après le renvoi de José Mourinho en décembre dernier, a été confirmé à son poste. Le Norvégien a signé un contrat de 3 ans. L'ancien attaquant emblématique de Man U est récompensé de ses excellents résultats. Depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, il a ainsi remporté 14 victoires en 19 matchs. Les Red Devils sont 5e de la Premier League à la lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils affronteront le FC Barcelone en quart de finale de la C1 dans 2 semaines.
Paris accueillera son premier match de NBA en janvier 2020.
Et oui, ce sera le 24 janvier 2020 entre les Charlotte Hornets de Tony Parker, Nicolas Batum et les Milwaukee Bucks, meilleure équipe actuelle amenée par le phénomène grec d'origine nigériane Gianni Antetokounmpo. Paris a déjà accueilli des matchs d'avant-saison de NBA dans les années 1990 et 2000, mais aucune rencontre de saison régulière. Londres était jusqu'à présent l'unique ville européenne à recevoir ce type de match. 9 rencontres au total entre 2011 et 2019, le Japon, la Grande-Bretagne et le Mexique sont les seuls pays à avoir organisé ce que la NBA appelle les Global Games. Et puisqu'on parle de NBA, on y reste avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière.
Détroit et Orlando 115 à 98, Philadelphie et Brooklyn 123 à 110, Miami et Dallas 105 à 99, Toronto et New York 117 à 92, Houston et Denver 112 à 85, Milwaukee et LA Clippers 128 à 118, La Nouvelle-Orléans et Sacramento 121 à 118, San Antonio et Cleveland 116 à 110.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des groupes djihadistes qui sévissent dans plusieurs pays de la zone franc ont été au centre des préoccupations à la réunion des ministres des Finances des États concernés ce jeudi à Niamey. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Dans le communiqué qui a sanctionné la rencontre, les ministres des Finances des pays de la zone franc ont réaffirmé la nécessité de lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Plusieurs pays de cette zone sont en effet confrontés au terrorisme et la France est plus que jamais disposée à les aider pour y faire face, a indiqué son ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire.
Le terrorisme est un frein au développement, donc nous voulons combattre tous ensemble le terrorisme avec la plus grande fermeté. Et le Niger a droit à la sécurité, comme tous les États membres de la zone franc. Chacun voit bien la déstabilisation que cela peut provoquer. La France se tient aux côtés du Niger pour combattre le terrorisme. Nous sommes engagés dans cette lutte contre le terrorisme. Il ne peut pas y avoir de développement économique sans sécurité. Et la sécurité est une priorité absolue. Combattre Boko Haram, comme nous avons combattu Daesh, est pour la France une priorité absolue. Et le Niger sait qu'il peut compter, comme les autres États qui sont touchés par ce phénomène, sur le soutien matériel, financier, militaire de la France.
Le ministre français a tout de même salué le succès des pays de la zone franc sur le plan économique. La zone UEMOA, par exemple, a renoué, malgré les problèmes de sécurité dans certains pays de son espace, avec la croissance. Mamadou Diop, ministre nigérien de l'économie et des finances.
Si je prends la zone UEMOA, depuis 7 ans, nous avons une croissance moyenne de plus de 6%. C'est le franc CFA pourtant que nous utilisons. Si vous prenez des pays qui n'ont pas le franc CFA comme monnaie et qui ont des monnaies nationales, ils n'ont pas les mêmes performances. Est-ce que ce n'est pas ça le plus important? Voilà ce que je réponds à chaque fois. L'important pour moi, c'est comment on conduit la marche du développement dans nos pays.
Interrogé sur ce débat autour du franc CFA et le projet d'une monnaie unique dans l'espace de la CEDEAO, le ministre français de l'économie a répondu que c'est aux États africains de décider. La France accueille de façon constructive toute initiative complémentaire dans le domaine monétaire. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Crise anglophone au Cameroun, au moins 170 civils ont été tués dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le mois d'octobre. Tel est le bilan donné par Human Rights Watch, qui accuse aussi bien les forces gouvernementales que les séparatistes de commettre des exactions. Morgan Guirier a joint Philippe Bolopion, porte-parole de Human Rights Watch à New York.
Écoutez, il y a de nombreux témoins qui ont rapporté qu'à de nombreuses reprises, lorsque les forces de sécurité, notamment la gendarmerie, arrivent dans un village ou dans une ville pour lutter contre des groupes séparatistes, même s'ils ne sont pas présents, les forces de sécurité camerounaises commettent des exactions graves. Dans certains cas, ont tué des gens, ont incendié des dizaines et des dizaines de maisons, ont battu et arrêté des personnes sans raison, et donc ont créé un climat de peur et de violence qui est totalement contre-productif si les forces de sécurité espèrent gagner la confiance des populations locales.
Des exactions ont également été relevées du côté des séparatistes. Quelles sont-elles ?
Absolument, les groupes séparatistes commettent et continuent à commettre de nombreuses exactions. Ils ont notamment pris en otage l'éducation des enfants dans les régions du nord-ouest, ouest du Cameroun, en terrorisant les élèves, en menant de nombreux kidnappings d'élèves, de professeurs, de fonctionnaires. Ce genre d'exactions décrédibilise complètement la cause qu'ils prétendent défendre.
Quelles sont les recommandations de Human Rights Watch ?
Nous pensons que le gouvernement camerounais doit de toute urgence rétablir l'état de droit dans ces régions. Les autorités camerounaises doivent mener des enquêtes crédibles sur les exactions qui ont été commises. Elles doivent punir les personnes qui sont responsables et tout simplement mettre un terme à ces agissements qui, une fois encore, sont contre-productifs et ne font que mettre de l'huile sur le feu. Les partenaires internationaux du Cameroun, et notamment la France, doivent aussi s'assurer qu'elles ne facilitent pas ce genre d'exaction lorsqu'on mise des soutiens financiers ou en termes d'opérations sécuritaires aux forces camerounaises. Nous pensons aussi que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU devrait demander une enquête internationale. Il serait aussi souhaitable que le Conseil de sécurité de l'ONU soit briefé sur la situation et dise de manière très claire que les personnes qui commettent des violations graves des droits de l'homme, quel que soit le camp dont elles viennent, risquent de faire face à des sanctions.
Philippe Bolopion, porte-parole de Human Rights Watch à New York. Le gouvernement camerounais a répondu à ces accusations, soulignant « Bien que les soldats présents dans les régions anglophones aient été victimes d'attaques des séparatistes, ils n'ont cessé de protéger les personnes et leurs biens. En aucun cas, les forces n'ont incendié des maisons ni tiré indistinctement sur ces citoyens », ajoute le gouvernement camerounais.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Sénégal, fraîchement réélu, le président Macky Sall vient de boucler son premier mandat, un septennat qui divise les experts sur le plan économique. Si certains pensent qu'il a réalisé des prouesses en termes de réformes économiques, d'autres estiment qu'il peut mieux faire et doit trouver une solution idoine au chômage des jeunes. De Dakar, notre correspondant Sedina Abagay.
Élu le 25 mars 2012, le président Macky Sall a soufflé ce 25 mars 2019 la septième et dernière bougie marquant la fin de son premier mandat à la tête du Sénégal. Un prétexte pour s'intéresser à la trajectoire économique du chef de l'État durant son septennat. Pour répondre à cela, le professeur Oumar Ba, économiste et enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, commence par le commencement, c'est-à-dire ce qui était prévu.
Premier élément, l'ouverture sur le plan global économique qui devait continuer l'évolution dont et la venue de certaines entreprises internationales, aussi bien européennes qu'asiatiques. Et également sur le plan général, la lutte contre le chômage et également une certaine politique de réorientation en vue de créer beaucoup d'emplois. Il avait même parlé de 500 000 emplois qui devaient être créés, ainsi que la modernisation, si vous voulez, des infrastructures.
Pour l'économiste Boubacar Diop, le bilan économique du président Macky Sall durant ses 7 ans au pouvoir est positif. Pour lui, c'est un mandat marqué par des réformes majeures.
Un redressement spectaculaire s'est produit dans notre économie. Redressement de la croissance, redressement du pouvoir d'achat, redressement des grands équilibres budgétaires et macroéconomiques avec une création d'emplois mais soutenue alors qu'on venait d'une situation désastreuse en 2012. Donc les perspectives pour le mandat prochain, améliorer le niveau de croissance qui est déjà soutenu puisque depuis 2015 nous sommes entre 6,5% et 7% de croissance.
Une production agricole record et des avancées dans le secteur industriel sont notées. Cependant, l'épineux problème du chômage persiste au Sénégal, selon le professeur Oumar Ba, économiste.
Sur le plan donc de l'agriculture, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures agricoles qui ont été mises en place. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait donc qu'il continue cette politique d'infrastructures agricoles. Il faudrait amener donc les entreprises à s'installer. Et ça a été quand même une certaine faiblesse de sa politique. On a eu peu d'entreprises qui se sont installées durablement ou qui se sont créées durablement. Troisième secteur, la lutte contre le chômage. Il avait fait une de ses promesses, donc de résorber grandement le chômage.
D'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la courbe de la croissance économique est ascendante, soutenue par le secteur agricole. Des chiffres confirmés par la BAD, l'institution dévoile à travers un rapport les taux de croissance durant ces dernières années. 6,5% en 2015, 6,6% en 2016, 7,2% en 2017 et 7% en 2018. Une tendance qui devrait se maintenir avec les retombées issues du pétrole et du gaz. Seulement, le défi aujourd'hui pour les autorités est de faire sentir aux populations cette croissance dans leur vie quotidienne. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
L'avocat et opposant togolais François Boko s'est vu refuser ce jeudi l'autorisation d'embarquer à l'aéroport parisien de Roissy à destination du Togo. Il avait démissionné en 2005 de son poste de ministre de l'Intérieur et s'était exilé en France. Ce mois-ci, de passage à la Voix de l'Amérique, ici à Washington, il avait expliqué avoir obtenu l'accord de principe du président togolais Faure Gnassingbé pour regagner Lomé. Timothée de Nangmaï a joint à Paris François Boko.
J'avais déjà la veille fait le pré-enregistrement et il fallait juste aller achever les formalités. C'est au cours des formalités que, au vu de mon passeport, une responsable, la chef d'escale de Air France, qui m'attendait à l'enregistrement, m'a dit « Monsieur, nous avons reçu des instructions précises des autorités togolaises de ne pas vous laisser avoir accès à l'aéronef. » Je dis « Mais pourquoi ?» Et ils me disent « Non, c'est des instructions fermes que nous sommes tenus de respecter. Sinon, les autorités togolaises ne nous donnent pas l'autorisation d'atterrissage. » Donc, en clair, ces instructions étaient fermes. Il ne fallait pas laisser M. Boko embarquer sous peine de refus d'atterrissage de la part des autorités togolaises.
Et pourtant, de passage ici à Washington, vous nous aviez dit que les discussions étaient assez avancées avec les autorités togolaises pour votre retour.
Oui, les discussions non seulement étaient assez avancées, mais le chef de l'État avait marqué son accord de principe pour mon retour au Togo et avait promis dans ce sens à la délégation d'émissaires, puisque vous savez que les discussions ont eu lieu par émissaires interposés. Le chef de l'État m'a envoyé 3 émissaires au cours de l'année 2018. Je lui ai rendu la politesse en lui envoyant aussi des émissaires. Et lors des discussions, il avait marqué son accord sur mon retour et sur les modalités de sécurité. Il avait renvoyé, en ce qui concerne les modalités de sécurité, il avait renvoyé la délégation à prendre la tâche du ministre de la Sécurité. Et en ce qui concerne mon passeport, il avait envoyé la délégation à prendre la tâche de l'ambassadeur du Togo en France pour les formalités de passeport. Je dois avouer, c'est vrai, que depuis, en dépit de cet accord de principe qu'il a donné, le ministre de la Sécurité n'a jamais reçu la délégation d'émissaires qui a relancé la demande d'audience de rendez-vous à plusieurs reprises. Et le certificat de nationalité qui permet de l'établir, le passeport, est toujours en souffrance dans le circuit administratif. La directrice du service de nationalité, estimant que n'ayant pas reçu les instructions d'en haut, elle ne pouvait pas poser un acte dans un dossier aussi sensible.
Qu'allez-vous faire à présent ?
J'estime que nul n'a le droit de m'exclure de mon pays indéfiniment. Je vais continuer à me battre pour entendre raison aux autorités togolaises, pour leur dire que j'ai le droit de rentrer dans mon pays et je rentrerai dans mon pays, quoi qu'il en soit, pour apporter ma pierre à l'édifice national.
C'était l'opposant togolais François Boko.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraogo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nashwan Kale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.